François Hellebrun, bonsoir.
Bonsoir Pierre.
Alors, en cette période des fêtes de Pessah, vous vouliez revenir sur quatre symboliques de la sortie d'Égypte. Il y a plus de 3000 ans, 3333 ans, le peuple juif réussissait sa sortie de l'esclavage et d'Égypte. Et donc, depuis plus de 3000 ans, ce peuple, qui fut dispersé sur toute la surface de la Terre il y a 2000 ans, a continué à transmettre de génération en génération ce récit épique lors du dîner du Seder. C'est le récit d'une libération contre l'oppression, du don d'une loi et de la reconquête d'un pays perdu. Et vous souhaitiez, François Hellebrun, vous qui êtes professeur associé à Sciences Po, revenir sur cette évocation à la fois fédératrice et fondatrice de l'histoire du peuple juif, de ses lois, de sa terre, mais aussi de la force de son message universaliste. Et vous vouliez non pas l'aborder sous l'angle religieux, mais sous des angles plus personnels, politiques, voire même au cœur de l'actualité. Alors on commence tout d'abord par l'aspect personnel. La famille de votre mère, Gina Escorrido Zarmati, étaient du Caire. Ils habitaient la grande rue Soliman Pacha. Et alors, en tant que juif égyptien, comment célébrait-il le Seder au Caire?
Tout à fait, Pierre. Ma famille maternelle était des judéo-espagnols arrivés de Smyrne dans l'Empire ottoman au Caire à la fin du 19e siècle. Mon grand-père s'appelait Jaime Escorrido et ma grand-mère s'appelait Soledad Zarmati. Ils parlaient entre eux le judios, le judéo-espagnol. Ils célébraient le Seder dans la grande rue du Caire où ils habitaient avec leurs quatre enfants, la rue Soliman Pacha. Petit, je demandais à mes grands-parents comment ils pouvaient célébrer cette sortie d'Égypte tout en y habitant. Mon grand-père, très fin et sensible, distinguait toujours le spirituel et le réel. Et puis il me racontait qu'à cette époque-là, entre 1910 et 1948, l'Égypte était tolérante, cosmopolite. Les Juifs, plus de 80 000, étaient souvent là depuis la nuit des temps et très bien intégrés. Tout changea avec l'indépendance d'Israël, le coup d'État militaire et surtout l'expulsion de tous les Juifs d'Égypte en 1956 par Nasser. Ce fut un nouvel exode. Ma famille maternelle rejoignit mon oncle, Shlomo Carmon, qui, sioniste, avait fait son alia dès ses 18 ans en Israël. Les autres cédèrent avec ma famille maternelle, nous les célébrions soit du Mont Carmel, soit de Ramat HaSharon, et cette contradiction temporelle et spatiale avait alors disparu.
Alors, autre aspect, l'aspect politique, que signifie politiquement le Seder pour vous?
Alors, comme vous le savez, Pierre, et peut-être pas beaucoup de vos auditeurs, j'ai pas de raison de le dire, je suis pas très religieux, mais pour moi, j'adore la fête de Pessah, car il y a un profond message d'émancipation politique et sioniste. Et pour illustrer la force de ce lien historique sans pareil dans l'histoire d'un peuple, transmise de génération en génération dans tous les pays où il demeure, sur une aussi longue durée avec une telle constance, voici en illustration un dialogue de 1954 entre David Ben-Gourion, alors Premier ministre d'Israël, en visite aux États-Unis, avec John Foster Dulles, qui était le secrétaire d'État américain d'Eisenhower et très, très antisioniste. John Foster Dulles défia Ben-Gourion de la manière suivante. « Dites-moi, monsieur le Premier ministre, qui donc vous et votre État êtes censé représenter? Les Juifs de la Pologne, ou ceux du Yémen, de Roumanie, du Maroc, d'Irak, de Russie ou peut-être du Brésil? Après 2000 ans d'exil, pouvez-vous honnêtement parler d'une seule nation, d'une culture unique? Pouvez-vous parler d'un héritage unique ou peut-être une seule tradition juive ?» Ben-Gourion sourit et lui répondit ceci. Écoutez, monsieur le secrétaire d'État, il y a environ 300 ans, le Mayflower quittait l'Angleterre avec les premiers colons qui s'établirent dans ce qui allait devenir la plus grande superpuissance démocratique connue sous le nom des États-Unis d'Amérique. Maintenant, voulez-vous, sortez dans la rue, trouvez 10 enfants américains et demandez-leur ceci, 4 questions. Quel était le nom du capitaine du Mayflower? Combien de temps le voyage a-t-il duré? Que mangeaient les passagers? Quelles étaient les conditions de navigation au cours du voyage? Je suis sûr, et vous le conviendrez avec moi, qu'il y a de bonnes chances de ne pas obtenir une bonne réponse à ces questions. Maintenant, en revanche, pas 300 ans avant, mais plus de 3000 ans, les Juifs ont quitté le pays d'Égypte. Je vous prie, monsieur le secrétaire, lors de vos voyages à travers le monde, de demander, dans chaque pays où vous allez, à 10 enfants juifs de répondre à ces 4 questions. Quel était le nom du chef qui a sorti les Juifs hors d'Égypte? Combien de temps cela leur a pris avant d'arriver en terre d'Israël? Que mangeaient-ils pendant la traversée du désert? Que s'est-il passé lorsqu'ils se sont retrouvés devant la mer? Une fois que vous obtiendrez les réponses à ces questions, je vous prie de reconsidérer la question que vous venez de me poser.
C'est super.
La célébration du Seder est donc une profession de foi sioniste ininterrompue depuis 3333 ans, l'an prochain à Jérusalem.
Alors, dans l'actualité, vous avez également été frappé par un événement cette semaine sur l'importance de la traversée de la mer Rouge.
Bah oui, on y a tous pensé, on l'a tous vu ça. Quel clin d'œil de l'actualité. Un super conteneur du nom d'Evergreen, ça ne s'invente pas, long de plus de 400 mètres, s'est échoué à la veille du Seder dans le canal de Suez, empêchant toute traversée de la mer Rouge pendant plusieurs jours à une grande part du commerce maritime importé et exporté d'Europe. Plus de 15% du commerce maritime mondial passe par le canal de Suez et donc traverse la mer Rouge. La traversée de la mer Rouge donc, reste donc un enjeu majeur et parfois périlleux. Et ce qui est intéressant, c'est que des alternatives à cet axe sont à l'étude depuis de nombreuses années et devraient donc être réactivées avec des enjeux géopolitiques et économiques majeurs dans cette région. Par exemple, est évoqué notamment dans Haaretz de ce matin, la réalisation de projets d'infrastructures israéliens où les pétroliers déchargeraient leur cargaison au port pétrolier d'Elat, au lieu de traverser le canal de Suez, et de là, ils seraient acheminés vers Ashkelon via un oléoduc. Et puis après, ils pourraient réembarquer à travers la Méditerranée. Les deux autres projets seraient des lignes ferroviaires entre les États du Golfe et les rives israéliennes de la Méditerranée, l'un depuis la baie de Haïfa jusqu'au golfe Persique. Effectivement, avec les accords d'Abraham, cela devient envisageable. Mais ça, c'est pour les bonnes nouvelles, mais il y a les moins bonnes nouvelles. Les Iraniens sont aussi sur le coup et tentent de promouvoir vigoureusement des voies ferrées qui traverseraient leur territoire depuis les ports du Pakistan vers l'Europe via la Syrie ou la Turquie. Et donc, activement, ils essayent de renouveler ça. Il y a aussi le corridor nord, celui de Poutine, qui passerait de l'Asie vers l'Europe. Et évidemment, les Chinois, avec leur grand projet de la route de la soie, sont en train de regarder comment faire pour contourner ce goulot d'étranglement qui est le canal de Suez. Donc, vous le voyez, 3000 ans plus tard, on ne cherche plus à traverser la mer Rouge. Ces derniers temps, on cherche à la contourner.
Enfin, vous souhaitiez nous parler d'Israël et de sa capacité à être un des premiers au monde à être en passe de vaincre ce nouveau fléau, cette nouvelle plaie, le Covid et les esclavages pour nos vies qui en découlent.
Oui Pierre, depuis plus d'un an, le monde est frappé d'une pandémie comme d'un fléau ou d'une plaie sortie du livre de l'Exode. Ce fléau a pour nom Covid. Il a tué près de 3 millions de personnes de par le monde, a mis l'ensemble de l'économie mondiale au ralenti, fermé les frontières, et dans de nombreux pays comme la France ou Israël, nous nous sommes retrouvés enfermés, confinés et soumis à des règles liberticides rarement mises en place par tant de pays. Je voudrais en cette semaine de Pessah entrevoir une lueur d'espoir qui nous vient d'Israël sur notre capacité à sortir de l'esclavage, à retrouver nos libertés essentielles dans un environnement sanitaire moins menaçant. Israël, par anticipation, vision, flexibilité et réactivité, a été le pionnier et le champion mondial de la vaccination, ridiculisant, hélas pour nous, la communauté européenne et la France, avec ses atermoiements et ses process compliqués. On peut dire qu'Israël, en cette semaine de Pessah, est en train de quitter l'esclavage du Covid et de ses restrictions de liberté de mouvement, de travail, de vie de famille et de loisirs. Quelques chiffres pour mettre en perspective la France avec Israël. L'espoir est donc une accélération massive de la vaccination, car comme on le sait, ça marche. Israël le démontre magistralement. Quelques chiffres donc. En Israël, plus de 51% des Israéliens ont été vaccinés deux fois. En France, seulement 3,7%. Le nombre de malades graves en Israël est de 455, là où en France, il est de 28 000 hospitalisés, dont plus de 5 000 en réanimation. Le taux de reproduction du virus en France est de 1,2. Il ne faut pas que ça dépasse 1, parce que c'est à ce moment-là que c'est épidémique. En Israël, il est tombé à 0,53, là où il était à fin décembre à 1,2, comme la France aujourd'hui. Le taux de positivité, donc quand on fait des tests, en France, il est de 8,2% aujourd'hui. En Israël, il est de 0,9%, soit 9 fois moins. Et en Israël, à fin janvier, il était de 10%, donc assez comparable à la France. Donc on le voit, en 3 mois, si la France rattrape son retard, comme nous pouvons l'espérer, avec une campagne de vaccination à l'accéléré, nous pourrions dans 3 mois, pour notre fête de la liberté le 14 juillet, nous sortirions à notre tour de cet esclavage moderne comme Israël a su si bien en sortir pour Pessah. Et pour conclure, je voudrais souhaiter à toutes vos auditrices, à tous vos auditeurs, ainsi qu'à toutes les équipes de Radio Shalom, Rak Pessar Sameach.
Merci pour vous aussi, François Elbron, qui est professeur associé à Sciences Po sur Radio Shalom. Bonsoir.
Bonsoir, Pierre.